Aïe. La question habituelle, sommes-nous en direct? Sommes-nous en direct?
Ou que oui, on est en direct.
Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, c'est la finale de notre saison 13, épisode 15. On fait un petit retour sur les jabs, jeux au bout, cet événement québécois de grande envergure hein, qui se tient dans la région de Rawdon, dans un camp de vacances pour les gamers, les gameuses de ce monde. Alors, bonsoir messieurs, vous êtes en forme pour la grande finale?
Et... Après 5 jours de jab, je veux dire que le sommeil manque un petit peu, mais on a quand même relaxé un peu.
Ouais, c'est sûr qu'on n'est pas totalement frais et dispo, moi un peu plus que vous, les gars, parce que vous êtes vraiment restés là plusieurs jours assez extrêmes. Mais bon, excellent. Alors, c'est la dernière épisode de cette saison de test live. Alors, vous savez, Balado Ludique, qu'on aime bien explorer, expérimenter des choses. Quelle sera la prochaine formule, ça reste à voir. On va en parler entre nous. Bonjour à ceux qui se joignent à nous en direct.
Salut Dave qui vient d'arriver.
Hello, hello. Alors, à voir qu'est-ce qu'on fera pour la suite des choses pour la prochaine saison. Laissez-nous vos commentaires entre-temps. Messieurs, je pense qu'on va se lancer tout de suite. Alors, le jab, jeu au bout, c'était toute une fin de semaine. Je pense pas qu'on va décrire trop l'événement et tout ça. Mais allons-y peut-être. C'est ça. Allons-y, on va parler de qu'est-ce qu'on a fait au jab et qu'on a apprécié, qu'on a moins apprécié, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. C'est comme vos highlights et vos moments forts du jeu. Je me lance rapidement avant qu'on commence, juste avec un petit peu de chauvinisme. Il y avait le tournoi de Arthurus Rex qui s'est tenu samedi à 14h à la cafétéria. Très cool, très le fun de voir beaucoup de gens jouer à ce jeu. Ça m'étonne à chaque fois à quel point c'est un jeu qui est quand même engageant et profond, mais rapide à jouer, pas si complexe à expliquer. On l'a vu durant le tournoi. Antoine, je sais pas qu'est-ce que tu as pensé de voir autant de gens jouer en même temps à ton jeu.
Oh, sérieusement, c'était très cool. Je me suis même joint à une des tables. Il manquait un joueur qui s'était pas pointé. Pierre aussi, d'ailleurs, s'est joint à une autre des tables. Donc, ça a été très agréable comme expérience de voir ça. Donc, les gens étaient si concentrés. Écoute, c'était sérieux. La tension dans l'air a coupé au coup. C'était vraiment, vraiment, vraiment le fun à voir. Donc, on va féliciter le gagnant. Je me rappelle malheureusement plus de son nom.
Jean-Michel.
Jean-Michel, félicitations.
Il devrait arriver sur le Facebook prochainement. Là. Il est donc, allé oui, c'est dans ça. Le lac avec l'épée. Là, tout,
là. Oh, tant que ça. My ouais. God.
Ouais, peut-être pas dans le lac. ouais, c'est ça. C'était probablement un de mes highlights forts là, du jab de mon côté.
Pierre, on va aller vers toi. Tu parles toujours en dernier d'habitude, on va te laisser la parole.
Il faut que je dise mon highlight fort, c'est ça?
Ouais, dis ce que tu veux sur le jab, on a 30 minutes pour en parler. Fait que...
Mon Dieu, que dire? C'était mes 17e jabs en 17 jabs. Alors,
wow,
c'est...
bravo!
Ouais, c'est... Ouais, oh non, c'est vrai, c'est pas vrai. Je pense que je mens un peu là-dessus, parce que les jobs, officiellement, ça fait 17 fois que ça s'est fait, mais j'étais pas là la toute première fois, là, lorsque c'était un cercle d'amis de 30 personnes. Même pas de peut-être 20 personnes. J'ai vu ça grossir comme c'est devenu aujourd'hui. Il fut un temps où les jobs... Ce n'était que 2 jours, et maintenant c'est devenu 10 jours. et parce que, bon, pour ceux qui nous écoutent, on est revenu des jobs, mais On est en plein milieu de la période des 10 jours parce que c'est
On retourne
coupé.
au jab. Toi, Pierre, dans 2 jours, tu vas être de retour au jab, là.
En 2 jours, je retourne au job et je suis aussi depuis le tout début, depuis 16 jobs que je suis parti, je suis un contributeur de ces jobs. Je suis en fait le fournisseur de la zone de Zendor qui est.
Zenda.
C'est une zone, en fait, où on va découvrir des jeux souvent avant le temps, souvent impossibles à acquérir au Québec. Bref, pour les aventuriers du DIC, je pense que c'est pas mal la place à se tenir. D'ailleurs, je pense que c'est là que mes deux collègues, se sont tenus pendant la plupart du temps.
C'est en partie comme ça qu'on s'est rencontrés, Pierre, même si on s'est croisés de plein de façons, ça a été nos premiers vrais contacts entre nous deux dans notre vie, là.
Oui, effectivement, c'est vrai que oui, tout à fait. Je me souviens les premières fois que t'étais là et que tu essayais de mes jeux et que tu en redemandais et que tu voulais voir qu'est-ce qui était le plus osé ou marginal dans ce que tu pouvais jouer. Et je pense que je t'ai pas déçu.
Marginal
D'ailleurs,
est un
j'ai.
excellent terme, en fait, pour décrire les jeux de ta zone. Des fois, je
Oui.
dis quirky, je dis étrange, vraiment, mais marginal. C'est souvent des jeux qui ont une petite mécanique vraiment qui sort de nulle part, que on n'a jamais vu ailleurs. Des fois, c'est bon, des fois, c'est un flop, mais c'est toujours, toujours original.
Oui, ben c'est ça qui est le but, la mission en fait que je me donne à chaque fois que j'amène des jeux là-bas. Et c'est une mission de plus en plus périlleuse parce que c'est quelque chose qui va toujours avoir quelques attentes pour les habitués. Et cette année, je me suis donné à fond pour amener des jeux qui n'étaient pas traduits ni en anglais ni en français. Alors, je les ai traduits moi-même, j'en ai traduit 5. Ça a été exténuant.
Oui, je te crois. En plus, t'es là 10 jours presque, mais comme 9-10 jours sur les 10, ça fait que c'est quand même beaucoup.
Oui, exactement. Je dirais que mon moment fort des jobs a été un moment qui est nouveau. C'est la première fois qu'ils font ça au job. Et je pense que beaucoup de gens ont apprécié ce
Oh
moment.
oui,
C'était
oh
le.
oui.
Ouais, hein, tu dois savoir de quoi je parle. L'ambiance était au rendez-vous. Je pense qu'ils ont réussi leur coup magistralement. C'est le barbecue du job.
Samedi soir, oui, le bel event, bien dit hier.
Moi, je suis arrivé
Voilà.
malheureusement à la fin. Il restait juste Carole et les deux personnes au barbecue.
Ah, c'est ça.
Ok, c'était
Mais
vraiment
à
à
son
la
plus
fin,
fort.
ça.
Oui.
Oui. Parce qu'au plus fort de cet événement-là, je dirais que la moitié des gens étaient au rendez-vous, et la
Un
moitié
bon
des gens étant.
150 personnes, effectivement, pour ceux qui étaient là.
Ouais. Avec des. C'était sur un gros belvédère hissé sur pendant le site. Un gros belvédère qui n'a jamais vraiment servi à grand-chose pendant les 17 années des droits. Et là, pour la première fois, ils s'en sont servis en installant des grills pour faire griller des burgers et des hot dogs. Ils vendaient en fait à 3 $ chacun.
La
Avec
musique.
la grosse musique des années 80, les barils avec feu qui sortaient pour se réchauffer autour parce que la température était très frisquette. C'était vraiment très réussi.
La
Et
seule
aussi très,
fois
très
que
gênant.
j'ai vu le Belvédère utilisé en fait dans le passé, c'est quand Francis Gagnon de Géant Jeux avait amené ses
Oui.
méga gros jeux sur place.
Oui, absolument. Mais c'était très improvisé cette fois-là, et je pense que même ça avait même pas été qualifié vraiment avec les organisateurs. Mais là, oui, c'était. D'autant plus que les burgers et les hot dogs étaient parfaitement à point. Très, très bon. Très délicieux. Et je pense que c'était apprécié du fait que, bon, le talon d'Achille des jobs, c'est malheureusement la nature. et on a beau le dire à chaque année, on dirait que c'est devenu quelque chose qui colle à cet événement-là. On dirait qu'ils sont pas capables de s'en défaire. Ils en font même probablement quelque chose maintenant d'inévitable. Et c'est probablement pour ça que les gens apprécient autant, ont apprécié autant le barbecue.
Ouais, non, mais un des points aussi, peu importe la qualité générale de la bouffe, c'est que tu vas là, tu manges ton premier repas, il est 8h30 du matin. Tu manges ton dernier repas, il est 5h du soir. Mais tu vas te coucher à 2h du matin. C'est sûr qu'à 11h, à 10h30, 11h, minuit, les gens ont faim. Et là, le barbecue du samedi, à 10h30 du soir, c'est comme, c'était la célébration la plus ultime.
Parce qu'il y en a qui vont se coucher même à 5 heures.
Ah oui, comme... ben oui, 5 heures, c'est une belle heure pour se coucher au câble. Le premier soir, on s'est couché, il était... Là, je me couche plus à 5 heures, mais cette année, on s'est couché, il était 3h40, 3h50.
Moi, bon, mon âge me permet plus de me coucher à cette heure-là.
Non, mais en plus, là, c'est bon, parce que quand tu te couches à cette heure-là, tu prends ta douche avant d'aller te coucher. Fait que là, t'es prêt pour te coucher, tu te lèves, t'es prêt à aller déjeuner, prêt à... Oh non, il a acheté des lunettes de lecture, le pauvre.
Okay. Ça, c'est pour mon âge aussi, c'était
et
la preuve.
Antoine, c'est quoi toi, ton highlight du job?
Mon highlight du job, en fait, c'est rencontrer le monde. C'est un événement de jeu, oui, mais c'est un événement social en premier pour moi. Donc, c'est des croiser des gens qu'on voit pas souvent, d'autres auteurs, des éditeurs, des distributeurs, des fans de balado ludique même qu'on croise sur place.
On en a croisé plusieurs d'ailleurs. Merci à tout le monde. Quand on vous croise, c'est vraiment cool de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent. Vous faites des petites jokes, des insides avec nous que vous connaissez si bien. Donc vraiment, c'est vraiment le fun de croiser des gens qui nous écoutent.
Puis moi, en fait, c'était mes premiers jobs officiels en tant qu'auteur édité, donc publié. Fait que juste de voir les gens qui disaient « Ah, c'est toi qui as fait Rémi Rémi, c'est toi qui as fait des papiers. » Bon, au complet, là. Mais juste voir les gens être contents de rencontrer un auteur, c'est comme... J'étais surpris et flatté à la fois, mais c'est... J'étais content de revoir des gens que je vois qu'au Jab aussi. Il y a trois personnes avec qui je joue depuis 3 ans, même, je pense, avant la pandémie. Et que je vois qu'au Jab une fois par année, c'est tout. Mais j'ai toujours beaucoup de plaisir avec eux autres pendant 4-5 jours. Fait que pour moi, c'est vraiment l'aspect social qui était vraiment important.
C'est bien dit. C'est un des plaisirs du Jab, d'ailleurs, de voir autant de gens. Je sais pas si c'est juste qu'on connaît plus de gens, qu'on est plus ouvert ou que l'ambiance change un peu, mais le Jab, pour moi, était quand même à la base un événement qui était un peu plus hermétique. C'était peut-être plus difficile de juste te pointer à une table, de parler avec les gens. Il y avait comme une espèce de distance entre les individus. Il y a de cela, je parle, il y a à peu près 10 ans, je trouve. Que maintenant, cette distance-là est plus atténuée. C'est plus facile de développer des contacts avec les gens, de parler, de juste chiller un moment, même de t'asseoir à une table sur l'heure du souper avec quelqu'un d'autre. Je trouve que ça l'a changé un peu. Peut-être que c'est moi qui ai changé, mais je trouve que ça l'a un peu évolué.
Je crois que c'est un peu l'effet de la COVID aussi. Les gens ont été tellement encabanés pendant un bout de temps qu'après la COVID, les événements sociaux ont comme pris beaucoup d'importance, beaucoup de place. Les gens avaient besoin de voir du monde et tout ça. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une certaine ouverture sur les autres qui est un peu plus importante que pré-pandémie.
Très, très possible. OK, fait qu'allons-y sur quelques jeux, peut-être, là. Un bon jeu. Un bon jeu que vous avez joué. C'est pas obligé que c'est votre meilleur, là, un bon jeu, là.
Pickleball Blast.
Oh, Pickleball Blast, tu m'as volé mon truc. Ben oui, c'est-tu que c'était bon, ça. Vas-y, je te laisse en parler.
Pickleball Blast, écoute, pour ceux qui connaissent un peu Lupin Louis ou Lupin Chewy, là, qui est un petit jeu de dextérité... où tu dois empêcher un avion là, de faire tomber tes petites rondelles en tapant dessus. Ben, Pickleball Blast, c'est ça, mais à vitesse fois 100. Donc, c'est assez intense. C'est plus proche. C'est comme un mix entre Lupin Louis et, mettons, du air hockey, donc du hockey sur air. Fait que ça dure 5 minutes, 10 minutes maximum, mais c'est intense. C'est très drôle.
Et le mécanisme, ben, t'sais, il y a comme deux mécanismes. Il y a l'espèce de pivot, de tige sur lequel le pickle va aller de gauche à droite. Et on a chaque joueur une espèce de petite palette là, qui peut flipper. Et les deux objets sont juste fonctionnent tellement bien. T'sais, tu te dis un jeu comme ça aurait pu être tellement cheap, tellement mal fait, mais là, ça marche bien. C'est ça qui est assez incroyable.
Effectivement. Donc, j'ai joué une partie contre Simon que j'ai gagné, je crois.
Oh, lisse, oui, c'était 4 à 4, t'as fait le dernier point.
Oui.
Oui, j'étais pas content.
J'ai joué une autre partie plus tard aussi, toujours aussi plaisant. C'était vraiment très drôle. Donc, ça, c'est un de mes coups de cœur, mais c'était vraiment pas un jeu de société, plus un jouet. Mais c'est Pierre évidemment qui avait apporté ça. Donc, qui d'autre que Pierre pour amener des jeux jouets aussi étranges? À part de ça, qu'est-ce que j'ai joué qui m'a surpris? Donc, le plus lourd que j'ai joué, qui a piqué le plus le cerveau, c'est Woodcraft, le dernier de Vladimir Sushi, je crois. Peut-être pas son dernier, mais en tout cas, de tout proche. Avant-dernier. Mais Woodcraft, c'est un jeu de. C'est un jeu.
On m'a dit que c'était
Ouais, c'est.
terrible. Est-ce que tu corrobores ça ou?
Que c'est terrible.
Ouais, que c'était vraiment pas
Non,
bon,
moi j'ai
mais.
trouvé ça vraiment très bien,
OK,
mais
OK, OK,
c'est. La courbe d'apprentissage est assez assez grande parce que tu sais pas trop où tu t'en vas en partant. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que ça va être quoi ta stratégie? Après une partie, je pense que je me suis rendu à la moitié de la partie avant de me rendre compte. Ah, c'est ça qu'il faut que je fasse.
OK.
Ça a été vraiment un peu compliqué, mais des belles mécaniques quand même. Donc, beaucoup de manipulation de dés, couper des dés en deux, recoller des dés. Donc, et le système aussi de sélection d'action au départ sur la roue est quand même vraiment intéressante aussi parce que si tu prends une action qui n'a pas été utilisée depuis plus longtemps, va avoir des bonus supplémentaires. Donc, il y a une espèce d'effet de je voulais pas nécessairement faire cette action-là, mais les petits bonus sont vraiment intéressants. Donc, le jeu est vraiment pas très joli, mais c'est pas grave. J'ai bien aimé, même si c'est un euro très lourd que je jouerai pas super souvent.
Pierre, dans un petit 1-2 jeux coup de cœur.
Et trois, je dirais. Deux qui ne sont pas encore publiés, qui vont paraître cet automne. Donc, je vais commencer par ces deux-là, dire. Le premier étant une augmentation d'un jeu du docteur.
Ouh, le docteur.
Le docteur qui a fait un jeu de gestion de risque qui s'appelle Hit. Qui est apparu, je crois, il y a quelques années, peut-être 2 ou 3 ans, un jeu de gestion de risque sur un thème de cowboy, qui est très, très, ouais, on peut dire thématiquement que c'est très artificiel, mais ça reste quand même que ça met une certaine ambiance quand on est dedans. Parce qu'il y a vraiment
Moi,
le.
j'aime bien Hit, en fait. J'ai bien aimé ce petit jeu de cartes de pur push your luck. Vraiment bien.
Oui, parce que dans le fond, ce qui est bien de ce jeu-là, c'est que c'est interactif. Tu tournes des cartes et puis quand tu tournes des cartes avec des numéros identiques, parce que c'est des numéros que tu tournes pour faire des points avec ces numéros-là, mais si tu tournes des numéros identiques, là, tu perds toutes les cartes que tu as tournées. Mais il y a des cartes que tu vas tourner avec des numéros qui vont être des numéros que d'autres joueurs avaient tournés. Et faut que quand tu vas les tourner toi-même, tu vas pouvoir aller chercher ces numéros-là chez les autres joueurs. Et ça, c'est intéressant parce que si les joueurs rejouent à leur tour et qu'ils ont ces numéros-là devant eux, ben c'est là qu'ils vont faire des points avec et qu'ils vont les encaisser. La version que j'ai jouée, c'est une version qu'ils appellent Extrême, qui s'en vient cet automne, avec des nouvelles cartes d'ajouter. Cartes qui sont méchantes. Des cartes, par exemple, qu'on pourrait. Il y a des cartes qui s'appellent Élixir, parce que bon, c'est un élixir miracle de Ramancheux, je dirais, qui c'est défini comme ça, puis quand on tourne cette carte-là, on peut la donner à un autre joueur, et là, cet autre joueur-là est obligé d'encaisser cette carte-là, et pas les autres cartes avant d'encaisser les autres cartes. Donc, il doit attendre un autre tour supplémentaire pour encaisser ces cartes. C'est un des exemples qu'ils ont rajouté là-dedans. Et c'est très, très bien. Je pense que ça prenait ça pour en faire un jeu encore plus piquant. J'ai bien aimé cette partie-là. Faut dire aussi que les joueurs autour de la table avec qui j'ai joué étaient très, très dans la partie. Ça faisait pas beaucoup. Et c'est ça qu'on voit, en fait. Ça reflète ce que le Knizia a déjà dit dans une entrevue. On lui demandait quel est son jeu préféré dans ses créations et il disait que j'en ai pas parce qu'un jeu dépend toujours du nombre des joueurs qui sont autour de la table pour en apprécier l'expérience.
Ouais, les joueurs, les jeux avec beaucoup d'interactions, en fait, effectivement, sont. Si on joue avec des joueurs de Euro qui sont plus cérébrales, qui sont dans leur truc, ça peut ne pas lever du. J'ai joué à des jeux de négociation où les joueurs ne voulaient pas négocier puis échanger. Ça a été vraiment. Oh, que ça a été
Je
long et
t'échange
pénible.
ma partie de glissade d'eau pour ta partie de glissade d'eau.
Oh.
Mais.
C'est Chinatown.
L'autre jeu que j'ai joué est un autre jeu qui va paraître cet automne en Allemagne, chez la compagnie Cosmos, la fameuse compagnie qui a mis au monde Catan. C'est un jeu qui suit les tendances, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est un croisement entre The Mind et un jeu de poker. Et ça s'appelle The Gang. Et c'est un jeu très intéressant parce que c'est un jeu inventé par un Américain, je pense. Et le but du jeu est de faire comme dans The Mind, c'est-à-dire qu'il faut être cohérent entre nous, dans nos esprits, sans se parler, il faut penser de la même façon. Il faut faire une main de poker. À la fin, on Texas Hold'em, donc avec des cartes qui apparaissent au milieu de la table, jumelées à des cartes qu'on a en main. Et l'idée, c'est que on va recevoir aussi des cartes qui vont représenter un degré de force qu'on estime avoir dans notre main de cartes de poker par rapport aux autres joueurs. Et on veut, essentiellement, quand la ronde est terminée, au bout de cinq cartes qui apparaissent au milieu de la table, pour qu'on puisse former notre main de poker avec ces cinq cartes-là, on veut être en mesure, sans se parler, de pouvoir graduer nos mains de poker de la plus faible à la plus forte. Donc, on veut finalement se déclarer comme étant le plus faible ou le plus fort ou le deuxième plus fort ou le troisième plus fort. Et après ça, ben, il faut révéler finalement nos mains de poker à la fin de la ronde pour savoir si on avait raison de nous positionner à la position qu'on estimait être. Et si on l'a, ben évidemment, ça fait une victoire sur les trois qu'on veut avoir.
Donc, on pourrait volontairement se ramasser avec une main de merde un peu et essayer de dire qu'on finit dernier, là.
Oui, parce qu'en fait, c'est un jeu coopératif comme The Mind. Alors, il faut vraiment être en symbiose avec les autres joueurs. Et ça fait vraiment une belle expérience. C'est une expérience qui est moins, pour ceux qui n'aiment pas de même, mais qui trouvent que c'est une expérience plus qu'un jeu. Ce jeu-là,
Antoine lève la
voilà.
main, défonce son
Ce
plafond.
jeu-là, ce jeu-là va ramener un peu ces personnes-là dans le sillon des personnes qui veulent avoir un jeu. Parce que il y a plus de règles dans ce jeu-là que dans The Mind. Et ça en fait quelque chose de plus poussé, plus réfléchi et vraiment très bien fait. Le dernier, c'est un jeu qu'un de nos auditeurs m'a poussé à jouer à 4 h du matin.
Oh.
Monsieur Martin Saint-Pierre, s'il nous écoute, doit rire dans sa barbe en ce moment.
Martin Saint-Pierre, bravo à toi et ta présence au Jab. C'était un plaisir de jouer avec toi. Et encore, oui, non, c'est ça. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Tu m'as forcé à jouer à Automobile et ça m'a fait plaisir.
Ouais, c'est ça. Il nous a forcé à jouer à quelques jeux, Martin Saint-Pierre. D'ailleurs, il m'a forcé aussi à rester debout jusqu'à 5 h du matin, le deuxième soir des jobs. Je lui ai appris à jouer à Saint-Pétersbourg. J'étais complètement zombie. J'ai montré Saint-Pétersbourg à cette heure-là. Une bonne 1 h 30 de cerveau en compote. Mais ce n'est pas ce jeu-là. Le jeu dont je parle s'appelle Contre-espionnage, un jeu de Vietnam dans les nouveautés que je vais amener. Mais du jeu minimaliste qui aurait pu être fait au Japon, constitué seulement de 15 cartes. Et dans ces 15 cartes-là, il y a des numéros de 1 à 4 en couleur verte, jaune et rouge. Et il y a les numéros 5, 6 et 7 dans la couleur noire. On distribue la moitié des cartes à chaque joueur, 15 n'étant pas divisible par 2. Il y a une carte qui reste, qui va au centre, elle est cachée. Il y en a aussi une autre qu'on va prendre, qui est visible. Donc, un des deux joueurs va avoir une carte de moins que l'autre au commencement de la partie, et c'est celui qui a le plus de cartes qui va commencer. Le but du jeu est archi simple. Il faut trouver en premier, entre les deux joueurs, quelle est la carte cachée. Et il faut faire ça à chaque tour en prenant une carte de notre main, en la mettant devant soi, et en disant à l'autre joueur de l'information sur notre jeu par rapport à la carte qu'on vient de mettre. Alors, si par exemple, je mets un 2 rouge devant moi et que j'ai 3-2 dans ma main, je peux dire à l'autre joueur, j'ai 3-2 dans ma main. Et l'autre joueur vient de voir que j'en ai un des trois, il est rouge. Et on peut aussi dire, j'aurais pu aussi dire, j'ai 2-4 rouges dans mes mains, et j'aurais pu aussi dire, j'ai une suite de 4-4 dans les mains. Parce que j'aurais pu avoir 2-3-4-5 dans mes mains. Alors, c'est comme ça qu'on finit par révéler la carte au milieu, parce qu'au fur et à mesure, vous avez compris qu'on joue une carte devant soi pour révéler l'information, ben ça devient de plus en plus facile de trouver la carte du milieu. Ça devient de plus en plus difficile aussi de dire l'information à l'autre joueur sans que l'autre joueur, à son tour, trouve la carte, parce qu'au lieu de jouer une carte, on peut essayer de trouver la carte du milieu. Mais si on se trompe, on donne 2 points de victoire à l'autre joueur sur les 3 nécessaires.
Oula!
Ah bien.
Ça doit être joué en 5 minutes à peu près.
Non, excusez-moi, ça donne un point de victoire, c'est pas 2 points de victoire, mais bref. Ça se joue effectivement en les 3 manches, habituellement on en fait 3 parce que c'est ça que ça prend pour atteindre 3 points de victoire. Oui, ça se joue à peu près à 15 minutes.
Ça, c'est le petit jeu à 2 joueurs que tu voulais me montrer et que j'ai pas essayé parce que j'avais un groupe.
Oui.
Par contre, il y a un beau petit jeu de déduction qu'on a essayé, Simon et moi, entre autres, de Singapour, de l'auteur Daniel Lee, qui s'appelle Hitman Hotel. Donc, c'est aussi un jeu de déduction. Donc, chaque joueur va décider donc 2 cartes de sa main pour... qui sont des cartes de 1 à 9. Donc, il va décider 2 des cartes de sa main, lesquelles vont être l'étage sur lequel il est caché dans un hôtel et dans quelle pièce il est caché dans un hôtel. Le but est d'essayer de trouver le joueur à ta gauche, il est caché dans quelle pièce. Parce qu'on est des tueurs à gages dans un hôtel et on se court après. Donc, on va poser des questions avec les cartes. Il y a des questions déjà prédéterminées sur les cartes qu'on va aller poser devant le joueur à notre gauche pour essayer de trouver c'est quoi l'information, donc les 2 chiffres qu'il a mis devant lui. La beauté de la chose, c'est qu'il y a 5 couleurs de 1 à 9 dans le jeu. Et lorsqu'on joue une carte devant la personne, donc on voit la couleur, et on voit le chiffre. Donc, ça donne de l'information à tout le monde. Donc, on sait, si j'ai joué le 9 vert, donc tout le monde sait que le 9 vert n'est pas dans les cartes cachées. Donc, tout le monde va être capable d'aller l'éliminer directement. Et on voit aussi, à l'endos des cartes, c'est quoi la couleur. Donc, si moi, je sais que tu as mis 2 cartes vertes devant toi, ben je sais que ni ton étage, ni ta pièce va être le numéro 9. Donc, il y a beaucoup d'informations. C'est pas juste l'information que tu vas chercher, mais c'est l'information que tu veux pas donner non plus aux autres. Si moi, j'ai une carte verte, je vais peut-être pas vouloir jouer ma carte verte devant mon voisin de gauche parce que ça va révéler de l'information sur mes propres informations cachées. Donc, toute cette information-là que tu croises fait que la tension monte assez rapidement. Donc, tu élimines très rapidement les possibilités. C'est vraiment un beau petit jeu là, de déduction qui joue jusqu'à, je pense, 5 joueurs et ça dure maximum 15 minutes. Donc, vraiment des belles petites mécaniques. Ça l'a inspiré d'ailleurs un autre jeu de Daryl Chow, de qui on a signé d'ailleurs deux jeux chez Locomuse. C'est un petit jeu de 18 cartes qui s'appelle The Secret Flower, qui est une version un peu plus poussée, plus cérébrale encore que
c'est une version coop. Une version coop.
Oui, coopérative aussi.
C'est essentiellement le même jeu, mais coop.
Coop, mais beaucoup plus tanky, je trouve.
Oui, oui, oui. Bon, ben, il nous reste pas beaucoup de temps. Je ne pourrais pas vous parler de tous mes coups de cœur du Jab. Je regarde ma liste, je suis comme bon, duquel j'avais parlé. Mais je pense que j'ai pas le choix quand même de parler de La Familia. La Familia qui est...
Tu as essayé ce jeu qui casse les codes?
Le jeu qui a gagné l'As d'Or Gamer, en fait, cette année. Donc, il est un jeu 4 joueurs qui dure 4 heures. Et qui se joue qu'à 4 joueurs. C'est un jeu qui se joue qu'à 4. Là, on incarne bon, des familles de mafieux hein, qui veulent prendre contrôle de l'Italie. Mais la particularité de ce jeu, c'est que c'est un jeu en équipe de 2. Et quand je dis en équipe, c'est vraiment en équipe. Chaque joueur a une faction, a une famille, mais on est vraiment en équipe. Et ce que ça crée, c'est que si on parle d'interaction entre les joueurs, d'expérience autour de la table, de comment on interagit autour d'une table de jeu. Ce jeu-là a une interaction absolument atypique. Oui, le jeu est cool, ok, c'est des belles mécaniques et tout, mais je pense que la force de ce jeu-là réside vraiment dans le fait que tu es à côté de ta partenaire tout au long de la partie qui va durer 4 heures et vous allez parler tout le long de vos stratégies. Fait que oui, c'est un gros jeu cérébral. Des fois, ça prend 8 minutes avant que ça soit ton tour. Mais c'est pas grave que tu attends 8 minutes parce que pendant ces 8 minutes-là, tu es en train de parler avec ton partenaire, ta partenaire juste à côté de toi. Et c'est là que réside la force de ce jeu-là. C'est là que le jeu se passe, en fait. Tu interagis énormément avec la personne de ton équipe. Et oui, c'est un jeu d'attaque, un jeu d'explosion de char piégé, puis tout ça, où tu vas faire du mal à l'autre équipe. Là. Mais au final, il y a une interaction vraiment forte qui se crée avec la personne qui est dans ton équipe.
Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, l'adversaire peut intercepter l'information n'importe quand.
L'adversaire peut intercepter l'information n'importe quand. Eux-mêmes sont dans une réflexion constante. Je parle pas de tous les détails, mais tu as une espèce de système, tu as des petits cartons qui représentent, mettons, la map, jeu, toutes les actions du jeu. Fait que là, tu tiens ce carton-là, puis tu pointes avec ton partenaire. Fait que ce que une conversation ressemble à, on pourrait aller là, et là, tu pointes sur un petit, une version miniature de la carte, le plateau de jeu. Sur cette version miniature, tu as aussi toutes les actions qui sont visibles. Fait que là, tu te dis, on pourrait faire ça là. L'autre, comme, ah oui, mais on pourrait aussi faire ça là. Ah, mais là, t'as-tu vu telle affaire qui est là, qui se passe? Fait que oui, tu peux intercepter, mais il y a aussi toute une espèce de langage codé qui se développe. Fait que tu sais qu'est-ce que les autres se disent un peu, mais pas trop. Puis en même temps, t'as tellement de choses à analyser.
C'est comme un décrypto de 4 heures, finalement.
Ouais, capitaine sonore, où t'essayes d'intercepter le message de l'autre. Mais c'est pas en interceptant le message de l'autre que tu vas vraiment gagner. Quoique, un peu à la Game of Thrones, t'as des ordres secrets que tu vas mettre. Là. Donc, tu dis, tu mets des ordres qui vont se révéler plus tard durant la partie. Fait qu'il y a un peu de... Ils ont-tu mis ça là ou ils ont mis ça là? Fait qu'il y a beaucoup de jeux mentaux, de mind game, de bluff, de OK, on a mis un ordre là, mais c'est peut-être pas l'ordre qu'on pense. Donc c'est vraiment très très cool. J'ai pas joué aux autres jeux qui étaient en nomination dans cette catégorie-là, mais je comprends pourquoi ce jeu-là pourrait gagner un prix de cette taille. Ça reste que c'est un jeu très précis, mais ça me faisait aussi réaliser qu'à une époque où il y a tellement de jeux qui sortent, il y a tellement d'opportunités de jouer à des jeux, ben le fait d'assumer pleinement le jeu que tu fais a une valeur. Et ce jeu-là assume pleinement ce qu'il fait. C'est un gros jeu de 4 heures en équipe de 2. Si t'es 3, tu vas jouer à autre chose. Si t'as pas 2 heures, si t'as pas 4 heures, tu vas jouer à autre chose. Mais si t'as 4 heures et t'es 4, c'est un jeu vraiment à essayer. Puis tous les gens que j'ai parlé durant la fin de semaine qui l'ont joué m'ont dit la même chose. Ils ont vraiment trouvé que c'était une expérience très différente de ce qu'on peut imaginer, parce que tu regardes le jeu et t'es comme, ce jeu-là, il n'y a rien qui le démarque réellement.
À boîte jaune.
La boîte est jaune, exactement.
Mais j'ai parlé à Étienne, justement.
Ouais, ben j'ai parlé justement avec Étienne aussi de ce jeu.
Il a joué, puis il m'a dit que c'était écœurant. Il dit, c'est... Il ne peut pas t'en parler, mais c'était écœurant.
Mais tout ce qu'il m'a dit. C'est difficile de décrire vraiment ce qui est très fort dans le jeu, mais le côté vraiment de proximité avec la personne avec qui tu joues est très puissant.
Ça rend ça immersif, probablement.
Exact.
Ça fait partie d'autres jeux du genre. Mais vas-y, c'est bon.
Ah non, vas-y, vas-y. De toute façon, on est à la fin de l'épisode. C'est terminé. Mais Pierre, le mot de la fin, c'est ton marge de commerce.
Attends un petit peu, moi, faut que je dois parler de mon coup de masse, par exemple.
Oh, on veut-tu vraiment finir la saison avec un jeu que personne va jouer parce qu'il est pas bon?
Ah, c'est correct, parce que c'est un des jeux à Pierre. Les chances qu'il essaie de le jouer sont assez minces.
Ben, c'est ça, encore plus. Ok, ben check, la musique est partie, le jingle est parti, t'as une minute, on t'écoute.
Je veux parler de Axon Protocol. Axon Protocol, c'est un jeu cyberpunk où tout le monde joue les mêmes personnages. Donc, les personnages sont sur la carte, ils vont essayer de faire des actions et leur but, c'est d'avoir certains symboles précis qui apparaissent sur la carte. Donc, moi, je devais faire du scandale et de la violence. Donc, il fallait que je fasse des actions en conséquence sur le plateau. Le gros problème de ce jeu-là, c'est qu'il y a énormément de textes sur les personnages. Il y a beaucoup d'interactions positives et négatives. Donc, il y a certaines actions que tu peux pas faire sur certains joueurs. Puis tout ça. Donc, il y a tellement de lectures à faire dans le jeu que ça rend le tout vraiment très lourd. Il y a quand même beaucoup de bookkeeping à faire aussi au niveau des symboles, parce qu'à chaque fois que tu rajoutes un symbole sur la carte, tu dois augmenter le tracker.
30 secondes pour nous dire à quel point c'était mauvais.
Ce qui était vraiment mauvais, c'est à cause du texte. Écoute, ça devenait presque injouable à cause de ça. Donc, malheureusement...
C'est un jeu, en fait, que les Américains vont adorer.
Ouais, c'est un texte pour les Américains.
Oui, c'est un jeu vraiment très, très narratif.
Par contre, il faut avoir des jeux allemands, je dirais. Parce que c'est un Allemand qui a fait ça, et c'est une production allemande, et ça c'est complètement champ gauche pour un jeu allemand.
Il était beau, par exemple.
Mais si on a joué à peu près, on va dire, 80 jeux cumulatifs là, durant cette fin de semaine, et on a eu le temps de vous en parler de 5 ou 6. Aurait pu faire...
À rafale, d'autres jeux. Five Peaks, excellent.
On vous souhaite une bonne fin
cookie,
de
ça,
journée,
ça pique le cerveau. Allez essayer Colpa, c'est très bon.
Et on se revoit la prochaine saison de Balado Ludique. On sait pas quand, mais... Elle va être là, inquiétez-vous. Ciao tout le monde.
Bye bye.